Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, hein? Bon, vous me direz, Herbert, ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est pas très compatible avec le temps qu'il fait, parce que je vous propose de faire une course. En effet, par le temps qui court, c'est pas très propice de faire des activités physiques, et notamment la course. En période de canicule, c'est plutôt déconseillé. Mais on verra qu'il y a un domaine dans lequel on est appelé plutôt à faire de la course en permanence, d'une activité sportive, et vraiment c'est dans le domaine spirituel. Et merci à Nadia pour la première partie du culte qui est vraiment en phase avec le message, en concertation. Et aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur Philippiens, c'est la suite d'une série que je fais. Alors, ce ne sera pas très bien, mais ce sera Philippiens 3, les versets 1 à 14, et je lirai dans la version Summer, et le texte s'affichera normalement progressivement. Donc, c'est l'apôtre Paul qui nous invite à choisir notre appui et à poursuivre la course. Et dans les versets 1 à 3, on voit que pour ce faire, il faut qu'on connaisse Jésus. C'est le seul maître à connaître. Je n'ai pas envie de dire coach, il est bien plus qu'un coach, Jésus, donc c'est vraiment le maître à connaître. Lisons les versets 1 à 3 dans la version Semeur. Alors c'est tout petit, hein, j'avoue. Vous arrivez à lire? Sinon, vous pouvez lire dans votre Bible. La version Second 21 qu'on utilise généralement ici est un peu différente. Donc ce serait bien qu'on lise dans la version Semeur. Alors, enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces gens, ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Voilà où s'arrête la première partie. Je vais juste monter ça. La lettre aux Philippiens est souvent appelée l'hymne à la joie, et ici encore, Paul exhorte les Philippiens à se réjouir non pas de leur situation matérielle, de leur santé ou des circonstances favorables, mais à cause de ce que Jésus est pour eux. Alors, qui est Jésus? C'est bien la question qu'on pourrait se poser. Je vais donner quelques réponses qui ne sont pas exhaustives, et si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez le lire en tout cas dans la Bible. Mais Jésus est vraiment la parole éternelle de Dieu, la parole créatrice, présente avant la création du monde. Il est le Fils unique du Dieu vivant, venu sur terre pour sauver les hommes et les femmes du péché et de la mort. Il est tout-puissant, il a accompli de nombreux miracles, il a nourri des foules, guéri des malades et ressuscité des morts. Il est lui-même mort sur la croix, avant de ressusciter le troisième jour, comme il l'avait annoncé. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout être reconnaisse qu'il est Seigneur. Il est aussi le bon berger qui accompagne ceux qui l'aiment et qui lui appartiennent. À tous ceux qui croient en lui, il offre le privilège de devenir enfants de Dieu et leur promet la vie éternelle dans un monde nouveau où il n'y aura ni souffrance, ni larmes, ni péché. Jésus est l'unique chemin qui conduit à Dieu. Voilà là une profonde raison de se réjouir, n'est-ce pas? Cependant, Paul dit tout de suite qu'il y a des personnes qui peuvent détourner les croyants de cette joie et de cette espérance. Des troubles faits, si on peut dire. Elles déforment le message biblique et présentent un faux chemin vers Dieu. Et conscient de ce danger, Paul rappelle aux Philippiens les vérités fondamentales de l'Évangile et n'hésite pas à répéter ce qu'ils savent déjà, car ces rappels contribuent à leur sécurité spirituelle. Et il faut dire que, je ne sais pas vous, mais moi je reconnais que parfois je suis amnésique et que j'oublie et je me fais prendre parfois dans des filets d'un bon discoureur, d'une personne à l'éloquence qui est stérile vis-à-vis de la foi. Et c'est pour mettre en garde que Paul parle. L'apôtre Pierre exprime la même préoccupation lorsqu'il écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prends soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Merci. Les croyants ont constamment besoin de revenir à la parole de Dieu. Sans cette connaissance, ils risquent de se laisser séduire par des discours convaincants, mais qui éloignent de la vérité biblique. Et Dieu lui-même déclare que son peuple meurt faute de connaissance. Alors la question est capitale, car Dieu seul détermine le chemin qui mène à lui. Aucune personne ne peut créer une voie alternative. Et Jésus affirme clairement dans Jean 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est pourquoi Paul emploie des paroles particulièrement dures et sévères à l'encontre de ceux qui annoncent un autre évangile. Dans l'Épître aux Galates, il déclare quelque chose dans laquelle lui-même aussi s'inclut, si jamais ça lui arrivait d'annoncer un faux évangile. Il dit, « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, nous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui-ci, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. En effet, détourner quelqu'un du salut offert en Jésus-Christ met en jeu sa destinée éternelle et c'est d'une gravité inqualifiable. À l'aéroport, si on vous dirige vers une mauvaise porte d'embarquement, vous n'arriverez jamais à la destination prévue. Ce serait fâcheux, mais le mal sera fait. De même, un faux enseignement conduit loin de Dieu. Jésus seul possède la clé de la seule porte qui mène au Père. Le danger auquel les Philippiens sont confrontés vient notamment des judaïsants. Ces derniers enseignent que la foi en Jésus ne suffit pas et qu'il faut y ajouter l'observation de la loi de Moïse et notamment la circoncision. Pour Paul, cette exigence est inutile et contraire à l'Évangile et la raison. Il appelle cela une mutilation inutile. Il les qualifie de mauvais ouvriers parce qu'ils ne servent pas les intérêts de Dieu, mais cherchent à imposer leur propre système. C'est un enseignement qui est surtout pervers. Leur attitude laisse entendre que les croyants d'origine juive seraient supérieurs aux croyants non-juifs. Et Paul rejette fermement cette idée. Il rappelle que la véritable appartenance au peuple de Dieu ne dépend ni de l'origine, ni des traditions religieuses. Les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui l'adorent par son esprit et qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Paul dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ayant reçu le Saint-Esprit, il cherche progressivement à développer le caractère de Christ et à vivre selon la volonté de Dieu. Et cette vérité rejoint l'enseignement de Jésus à la femme samaritaine. Alors qu'elle épiloguait sur le lieu légitime pour adorer Dieu, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, Ce sont là les adorateurs que Dieu recherche, ou que recherche le Père. Dieu regarde avant tout au cœur. Il ne s'intéresse pas à notre origine, à notre apparence ou à nos performances religieuses, mais à la sincérité de notre foi. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus peuvent donc se réjouir, car il leur promet sa présence aujourd'hui et pour l'éternité. À l'inverse, ceux qui comptent sur leur propre mérite ne peuvent obtenir par eux-mêmes le pardon de leur faute. Peut-être qu'ici, on ne se glorifierait pas de notre filiation biologique avec Abraham, à moins qu'il y ait un de ses descendants dans la salle, je ne suis pas au courant. Mais nous pouvons peut-être être tentés de placer notre confiance, notre fierté dans notre assiduité aux réunions d'église, au culte, même quand on arrive un peu en retard, comme moi aujourd'hui, pardon. Notre générosité, notre fidélité dans la dîme, notre engagement dans des services ou dans des bonnes œuvres. Pourtant, aucun effort ne peut remplacer l'œuvre parfaite de Jésus. Notre seule fierté doit être en lui, car lui seul nous réconcilie avec Dieu et nous donne l'assurance de la vie éternelle. Alors aujourd'hui, les enseignements bibliques sont facilement accessibles sur Internet. Cette abondance est une richesse, mais elle exige de nous, de chacun, du discernement. Tous les enseignants qui se réclament de la Bible ne sont pas fidèles à son message. Il est donc essentiel de vérifier leur cohérence avec l'ensemble des Écritures et de s'assurer qu'ils conduisent réellement à Jésus-Christ. Un enseignement qui éloigne de Christ ou qui est contraire à sa vie révélée dans les évangiles est à fuir et à rejeter. Prenons l'exemple d'un professeur qui enseignerait toute l'année un programme erroné à ses élèves, je pense à nos bacheliers. Si un enseignant enseigne toute l'année un programme qui est erroné, et au moment de l'examen, ceux-ci échoueraient parce qu'ils auraient appris de mauvaises choses. De la même manière, croire un faux évangile entraîne des graves conséquences spirituelles. C'est pourquoi nous devons vraiment toujours examiner les enseignements, pas selon quelqu'un, pour dire que tel prophète de nos temps contemporains a dit que, mais que dit la Bible? À la lumière de la Bible, non pas sur un seul verset, mais sur la totalité de la Bible, voire la cohérence de la Bible. Oui, examinons les enseignements à la lumière de la parole et demeurons attachés au véritable évangile de Jésus-Christ. On peut aussi se poser cette question, qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour nous aujourd'hui? Et aussi, où est-ce que nous plaçons notre fierté? Les versets 4 à 11 montrent que l'appui véritable, Jésus est l'appui véritable pour se hisser vers Dieu. Continue la lecture. Et pourtant, toujours Paul qui parle, et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce qui, en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice qui, que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Paul répond avec ironie à ceux qui placent leur confiance dans leur mérite religieux, leur filiation avec Abraham. S'il fallait se glorifier de son parcours, il aurait largement de quoi le faire. Son CV humain est impressionnant. Né de parents juifs, circoncis le huitième jour, conformément à la loi, issu de la prestigieuse tribu de Benjamin, qui a donné le premier roi, et aussi une tribu qui est restée fidèle à Dieu avec celle de Juda, quand le royaume s'est divisé en deux. Et il enfonce le clou en rappelant qu'il est hébreu, et contrairement à certains qui étaient issus d'un métissage. Et dans Acte 22, si vous lisez, vous verrez combien, par exemple, il attire l'attention de ses auditeurs, de ses détracteurs, de ses accusateurs, quand il se met à parler en hébreu. Donc, je pense que c'était vraiment quelqu'un de remarquable et qui pouvait vraiment se glorifier de son attitude, enfin, de ses origines et de qui il était. Et sur le plan religieux, il appartenait aux pharisiens, le groupe le plus rigoureux de son époque, spirituellement et religieusement, je dirais plutôt, religieusement. Et son zèle était tel qu'il persécutait les chrétiens qu'il considérait comme une menace pour la foi. Et pendant longtemps, Paul a pensé que toutes ses qualités faisaient de lui un homme juste devant Dieu. Mais sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a complètement bouleversé sa vision. Il a compris que tout ce dont il était fier ne pouvait lui ouvrir les portes du ciel et de Dieu, du salut. La montagne d'œuvres accomplies sur lesquelles il se confiait s'est révélée être une montagne de neige qui a fondu sous le feu du regard perçant de Dieu. Devant la sainteté de Dieu, ses œuvres et ses mérites perdaient toute la valeur. En effet, c'est une utopie de croire que l'on peut tapoter à la porte de Dieu et lui dire légitimement « Seigneur, ouvre-moi la porte !» Pour demeurer avec toi, j'ai respecté ta loi. On ne peut pas. Pourquoi? Aucun homme n'est capable d'obéir parfaitement à la loi. Et c'est ce que rappelle Jacques. Il dit car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. On pourrait continuer ainsi avec la liste des péchés, de tout ce qui entrave la relation avec Dieu. La loi n'avait donc pas pour but de sauver l'homme de ses efforts, mais de lui révéler son imperfection et aussi son besoin de la grâce de Dieu. Depuis toujours, Dieu appelle l'être humain à ne pas placer sa confiance en lui, mais en lui, en l'homme, mais en Dieu. Vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, et Dieu dit par exemple, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Donc, ce n'est pas seulement notre prochain, mais nous-mêmes aussi. Si on place notre confiance en nous-mêmes, nous sommes maudits, parce que nous n'avons pas de salut, nous n'avons aucun remède pour accéder à lui. Mais en regardant de plus près, on constate que dans la justice, on a la loi, et c'est une ironie, moi, je dirais. En regardant de plus près, on constate que dans la justice, selon la loi, il y a déjà une forme de grâce insoupçonnée. Le coupable pouvait offrir un sacrifice pour le pardon de sa faute. Mais quelle est donc cette justice dans laquelle ce n'est pas le coupable qui reçoit la sanction qu'il mérite? De plus, le sacrifice qu'il offre n'est pas une de ses créations, mais l'œuvre de Dieu, puisque c'est un animal qui a été créé par Dieu. N'est-ce pas une grâce déjà que Dieu accepte ou accepté à l'époque ce sacrifice pour apaiser sa colère, pour pouvoir se glorifier de parvenir à Dieu par ses propres forces ou ses propres efforts. Il faut être irréprochable en tout. Et ça, c'est impossible à chacun de nous. L'apôtre Paul est vraiment remarquable. Il n'a pas cheminé physiquement avec Jésus, mais il a bien saisi son enseignement. C'est pas assez clair, mais je vais le lire pour vous. Et je trouvais qu'il y a des parallèles entre sa compréhension et les paroles de Jésus. Il dit par exemple que pour lui, la vie éternelle se résume à connaître Jésus. Et là, vous avez la référence dans Jean 17, verset 3. Il a compris également qu'avec Christ, il fallait perdre pour gagner. Bon, en général, on n'aime pas perdre. Mais on apprend qu'il faut perdre pour gagner en Jésus. Et c'est aussi ce que Jésus dit dans Matthieu 16. Il dit que celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui, il la retrouvera. Ainsi, Paul a vraiment l'assurance d'expérimenter la puissance de la résurrection, c'est-à-dire la puissance de Dieu, de son esprit en œuvre en lui, pour le transformer progressivement à l'image de Jésus-Christ. Et aussi, plaire à Dieu, même dans l'épreuve, par une obéissance à sa volonté. C'est aussi cette puissance qui lui accorde affectueusement le pardon des péchés confessés. Et par sa foi et sa résolution ferme à toujours faire confiance à Jésus, il ne peut que parvenir à la résurrection des morts pour être éternellement avec Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment une assurance pour nous. Si nous sommes sincères, si nous sommes déterminés, si nous restons attachés à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, nous serons avec lui pour l'éternité. C'est vraiment une assurance. Jésus lui-même a dit à ses disciples, il leur prépare une place afin que là où il est, eux aussi, lui, y soit. Alors, ça nous interpelle encore sur où est-ce que nous plaçons notre confiance. Il y a quelque temps, à Omé, on avait participé à une formation une conférence sur la louange et un des orateurs avait donné un exemple qui nous avait vraiment bien interpellés et nous a raconté un échange qu'ils avaient eu lors d'une rencontre chrétienne, un tour de table. Ils étaient autour de la table pour une réunion et ils ont fait un tour de table pour faire connaissance. Donc chacun donnait son nom et également son parcours. À la fois spirituel, mais aussi pendant ses études. Et tous déclinaient un peu les écoles dans lesquelles ils étaient avant d'embrasser le ministère pastoral. Et puis, il y en a un homme qui était sans doute le plus érudit de tous, qui, quand c'est son tour, s'est juste présenté comme un pécheur gracié. Et il a dit, en fait, tout ça, ça a leur coupé le souffle à tous, en fait. Parce qu'en mettant en avant leurs écoles, par où ils sont passés, ou les études bibliques qu'ils avaient faites, ça pouvait donner l'impression qu'ils plaçaient leur confiance en eux-mêmes, en fait, oubliant la raison pour laquelle ils étaient là. Et aussi grâce à qui ils étaient là, c'est Jésus, en fait. Nous aussi, ça peut vraiment nous interpeller. Où est-ce que nous plaçons vraiment notre confiance? Et qu'est-ce qu'il nous faut aussi perdre pour grandir en maturité spirituelle? Qu'est-ce qu'il faut que nous perdions pour grandir en maturité spirituelle? L'enseignement pour nous est vraiment clair. Notre espérance ne repose ni sur nos œuvres, ni sur notre religiosité, mais uniquement sur Jésus-Christ et sur son œuvre, la grâce qu'il offre à tous ceux qui croient en lui. Les versets 12 à 14 Jésus est, c'est vraiment l'athlète modèle à imiter impérativement, même quand c'est la canicule. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, mais non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Christ. Cela peut paraître curieux de lire Paul dire qu'il n'est pas parvenu au but. C'est quand même Paul, quoi. N'étant pas sauvé immédiatement en croyant sincèrement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lors d'une compétition sportive, on peut entendre des commentateurs dire que la victoire est promise à un favori. Sur lui, la victoire est à lui. Vu ses performances au cours de l'année, il est au top de sa forme, c'est pour lui. Mais s'il ne court pas, s'il est passif, il n'est pas acteur, il verrait certainement le trophée lui échappait des mains. Jésus a accompli le plan de salut décrété par le Père trois fois saint, afin de réconcilier avec lui l'humanité pervertie par le péché et qui n'était pas capable de se tenir devant lui. Mais être chrétien, ce n'est pas pour autant être oisif, passif, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Au contraire, c'est gagner progressivement du terrain sur l'emprise du péché dans notre vie quotidienne. C'est toujours rechercher la ressemblance à Jésus-Christ. Oui, on est sauvé, on accède à la vie éternelle dès que l'on manifeste une foi sincère en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce salut et cette foi, justement, se manifestent par un changement, par une nouveauté de vie. Pour rechercher activement la ressemblance à Jésus-Christ, l'homme parfait selon Dieu. C'est donc la perfection qui est notre objectif terrestre, vivre une vie qui glorifie Dieu en permanence. Et Paul utilise souvent les métaphores du sport, le sport qui implique quand même une certaine discipline, une certaine persévérance, une résilience et même des sacrifices. Et comme au chapitre 2, où il parlait déjà de course, il dit ici encore qu'il est en course, qu'il court. Et ce n'est pas une course solitaire. Au chapitre 2, il courait pour la maturité des Philippiens, et ici, il court pour la sienne. Et dans cette course, il peut compter sur le soutien indéfectible de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui par le Saint-Esprit l'encourage, désaltère, revient en cas de baisse de régime, et on peut continuer ainsi jusqu'au bout. Jésus s'est saisi de moi, dit Paul. C'est-à-dire que Christ est mort pour lui. Il a racheté pour désormais vivre pour lui. Jésus s'est saisi de moi. Il est vraiment imprégné de cette vérité et il met désormais toute son énergie à développer le caractère de Christ pour remporter le prix promis par Dieu à tous ceux qui mettent sincèrement leur confiance en Jésus-Christ, la vie éternelle, l'union avec Jésus. Et en situation favorable, non, on voit vraiment Paul poursuivre cet objectif. Je vous donne une illustration, par exemple, de sa détermination. Piqué au vif par les critiques acerbes de certains Corinthiens qui le traitait de quasiment de lâche. Il disait qu'il était docile en leur présence et puis sévère dans ses lettres quand il partait, quand il était loin d'eux. Je me suis dit, quelle aurait été ma réaction? Quelle aurait été notre réaction, notre attitude, si notre autorité, notre ego étaient frontalement et publiquement attaqués? Quelle aurait été notre réaction? Quelle aurait été la mienne? Et Paul répondra d'une manière vraiment remarquable. Il dit qu'il continuera à leur annoncer la vérité biblique pour leur bien et que son amour pour eux ne cessera de grandir, quand bien même le leur, à cause des lettres, tarirait. Donc même si eux n'ont pas compris son amour pour eux, lui, il continuera à développer de l'amour pour eux. Quel exemple! Paul est vraiment tourné vers l'objectif de ressembler à Jésus-Christ, qui lui aussi a fait face à de nombreuses injustices sans péché. Paul a tourné le dos à ce qui est du passé pour se focaliser sur l'avenir que lui promet Jésus. Mais n'est-ce pas cela la vraie repentance? Changer de direction. Changer de direction. C'est ce qu'il a fait, Paul. Il a changé de direction. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire quelque chose de mal, de grave, que vous regrettez au point que vous ne supportez même pas son éruption dans votre pensée? Vous voudrez l'oublier, faire usette. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, si. J'en ai peut-être beaucoup de mauvais souvenirs comme ça. Est-ce que nous avons le même dégoût de notre vie d'avant, des fautes et des péchés que l'on commettait avant de connaître Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons également les oublier? Si nous voulons vraiment les oublier, alors nous n'y repartirons pas, en fait, avec joie. Nous changerions vraiment de direction pour laisser notre passé et embrasser l'avenir avec Jésus-Christ. Paul dit encore dans 2 Corinthiens que l'on doit être quelqu'un de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de nouveautés, en phase avec la vérité biblique, demandons pardon à Dieu pour cela et prions pour un réveil spirituel. Il ne faut pas en rester là. Là, on peut vraiment se poser cette question pour nous, pour moi et pour nous. Est-ce que notre vie est vraiment impactée par notre rencontre avec Jésus-Christ? Est-ce que, comme Paul, nous pouvons dire aussi que nous mettons toute notre énergie à rechercher la ressemblance à Jésus-Christ? Les passionnés d'une star, comme Johnny Hallyday, par exemple, sont incollables sur sa vie. Bon, je ne sais pas s'il y en a, je n'ai pas non plus de questions à vous poser par rapport à une star, mais j'en suis sûr que s'il y a des gens qui sont vraiment fans, si on leur pose la question sur leur star, bah, ils savent quasiment tout de lui. En fait. C'est impressionnant. Alors, et nous, chrétiens, sommes-nous aussi réellement passionnés de Jésus-Christ et de Dieu? Dieu se révèle dans sa parole, la Bible. Combien de temps je consacre à la lecture de la Bible? Une lecture non pas littéraire, mais une étude approfondie. Une méditation qui permet de saisir la beauté de la parole de Dieu et aussi ses instructions. Vraiment ayant une vraie passion pour la Bible, sa parole. Et je vous encourage aussi à vous doter d'une Bible d'études. Alors, je fais la pub de celle-ci, mais il n'y a pas que ça, il y en a bien d'autres. Mais je vous encourage aussi à vous doter justement d'une Bible d'études. Parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi, en fait, qui ont médité avant tout sur les textes et qui ont vu aussi la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qui rapportent ça dans un texte. En fait, c'est d'un côté, il nous facilite la tâche, mais c'est aussi une manière pour nous de nous aider à progresser, nous aussi, de faire ce travail de méditation en s'inspirant de cela. Et toujours aussi dans cette idée vraiment de manifester de la passion à Dieu par la lecture de la Bible. Si vous avez du mal à consacrer du temps, peut-être que vous avez du mal à avoir une rigueur dans la lecture quotidienne de la Bible, pourquoi pas demander de l'aide? Pourquoi pas dire, ben voilà, on veut faire un club de personnes Ils s'encouragent juste un groupe WhatsApp où on envoie juste des messages pour dire, voilà, aujourd'hui, on n'oublie pas de s'encourager à lire la Bible. Même si on ne lit pas le même texte, mais vraiment qu'on soit là, un peu des sentinelles des uns des autres pour nous encourager à lire la Bible. Et qu'est-ce que je mets en œuvre pour grandir en maturité spirituelle? Pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Dans l'Église, on a des groupes de vie, hein, des groupes de jeunes, on en a parlé, des groupes de maison, des groupes d'hommes, des groupes de femmes, passerelles, qui a eu lieu hier d'ailleurs. Et il y a aussi des ressources qu'on a aujourd'hui qui sont mises à disposition. Alors, il y en a tellement sur Internet que parfois on ne sait pas quelle est la bonne et la vraie ressource. Mais vous pouvez aller sur le site Internet de l'Église, où vous avez quelques ressources, et notamment le site Tout pour sa gloire, qui est vraiment, moi je dirais, c'est vraiment une aide. Grâce à ça, moi j'ai écouté 20 heures de l'histoire de l'Église. Bon, c'est super, c'était gratuit en plus. Et ça m'a permis de connaître davantage en fait la réforme et c'est accessible. Alors j'ai fait ça en faisant plein de trucs, hein. Donc 20 heures c'est beaucoup. Mais c'est une manière en fait pour nous de nous imprégner vraiment de la parole de Dieu et aussi de bénéficier du travail qui a été fait par des hommes de Dieu pour nous permettre de mieux connaître la parole de Dieu. À chaque jour de notre vie, hein, nous bâtissons notre avenir éternel, mais avec quel appui? Mes propres efforts, ma propre force, ou Jésus? Et avec quelle rigueur? Paul a compris que son appui était précaire, son appui avant de connaître Jésus était précaire, et que son édifice n'était pas solide. Il s'est tourné vers Jésus, son amour, pour construire son nouvel édifice. Il lui a donné le Saint-Esprit qui l'aide quotidiennement pour poser une pierre après l'autre pour un édifice qui subsistera jusqu'à la vie éternelle, sa foi et son obéissance à Dieu. Il s'est passionné de ce que Jésus aime pour développer son caractère en lui. Tant que nous sommes sur terre, nous ne sommes pas arrivés au bout de la course. On doit continuer à marcher, canicule ou pas, à courir. Et l'apôtre Pierre nous a concocté un programme d'entraînement au cas où on pourrait croire que voilà, moi je suis arrivé à la perfection. Il nous donne ce programme que vous pouvez trouver dans 2 Pierre. Et je vous invite à lire tout le chapitre chez vous, 2 Pierre 1. Et moi, je lirai juste le verset 5. Pour cette raison, si vous voulez connaître la raison, ben lisez. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En fait, si on avait commencé par la fin, l'amour, ça résumait tout. Et c'est bien que c'est l'exercice le plus difficile pour nous, les hommes et les femmes. Mais c'est le programme que Dieu il a concocté pour nous, pour ceux qui croient vraiment en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui veulent lui ressembler. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons vraiment transformés pour que nos mauvaises habitudes disparaissent et que l'on puisse voir la beauté initiale que Dieu avait mise dans le cœur de l'homme, l'homme parfait. Jésus a été sur terre. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul et pour son texte. Tu es vraiment un Dieu plein de grâce. Pour lui et comme pour nous. celui qui se bombait le torse en croyant que tout ce qu'il faisait le guidait, le conduisait vers toi et qui pouvait s'enorgueillir de toutes ses valeurs, toutes ces choses, ces œuvres qu'il accomplissait. Mais dans ta grâce, tu as voulu, Seigneur, lui révéler qu'il était dans l'erreur et que tu l'aimais tellement que tu lui as montré le vrai chemin qui conduit à toi. Le vrai chemin, c'est toi, Jésus-Christ. Et nous sommes aussi convaincus qu'il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au Père que toi. Nous ne voulons pas juste être convaincus, Seigneur, mais nous voulons aussi le vivre. Alors aide-nous à t'aimer. Peut-être pas comme toi, tu nous as aimés, de faire cette confession personnelle, que je suis incapable de t'aimer comme toi, tu m'as aimé. Mais donne-moi, Seigneur, de t'aimer et d'être passionné de toi aussi. Comme toi, tu m'as aimé. Comme tu nous as aimés. Afin que nous puissions développer en nous ton caractère, ta personnalité. Que nous puissions être des personnes transformées par ta parole. Afin que ceux qui nous entourent puissent reconnaître que nous sommes tes enfants. Et que eux aussi puissent rechercher celui qui est capable de transformer des cœurs et des vies, et celui qui donne accès à la vie éternelle. Le Seigneur, nous voulons bâtir notre vie sur toi. Aide-nous dans ta grâce. Et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Parce que c'est toi qui as tout accompli par grâce, par amour, pour nous. Au nom de Jésus.